Chapitre 6. Intérieur et physionomie royaliste sous le consulat. Au moment où Marthe, avertie de l'imminence du péril, glissait avec la rapidité d'une ombre vers la brèche indiquée par Michu, le salon du château de Cinq-Cygnes offrait le plus paisible spectacle. Ses habitants étaient si loin de soupçonner l'orage près de fondre sur eux que leur attitude eût excité la compassion de la première personne qui aurait connu leur situation. Dans la haute cheminée, ornée d'un trumeau où dansaient au-dessus de la glace des bergères en panier, brillait un de ces feux comme il ne s'en fait que dans les châteaux situés au bord des bois. Au coin de cette cheminée, sur une grande bergère carrée en bois doré, garnie en magnifiques lampasses vertes, la jeune comtesse était en quelque sorte étalée dans l'attitude que donne un accablement complet. Revenue à 6 heures seulement des confins de l'abri, après avoir battu l'estrade en avant de la troupe afin de faire arriver à bon port les 4 gentilshommes au gîte où ils devaient faire leur dernière étape avant d'entrer à Paris, elle avait surpris monsieur et madame d'Hauteserre à la fin de leur dîner. Pressée par la faim, elle s'était mise à table sans quitter ni son amazone crottée ni ses brodequins. Au lieu de se déshabiller après le dîner, elle s'était sentie accablée par toutes ses fatigues et avait laissé aller sa belle tête nue, couverte de ses 1000 boucles blondes, sur le dossier de l'immense bergère, en gardant ses pieds en avant sur un tabouret. Le feu séchait les éclaboussures de son amazone et de ses brodequins. Ses gants de peau de daim, son petit chapeau de castor, son voile vert et sa cravache étaient sur la console où elle les avait jetés. Elle regardait tantôt la vieille horloge de boule qui se trouvait sur le chambranle de la cheminée, entre 2 candélabres à fleurs, pour voir si, d'après l'heure, les 4 conspirateurs étaient couchés. Tantôt la table de Boston, placée devant la cheminée et occupée par M. d'Hauteserre et par sa femme, par le curé de Cinq-Cygnes et sa sœur. Quand même ces personnages ne seraient pas incrustés dans ce drame, leur tête aurait encore le mérite de représenter une des faces que prit l'aristocratie après sa défaite de 1793. Sous ce rapport, la peinture du salon de Cinq-Cygnes a la saveur de l'histoire vue en déshabillé. Le gentilhomme, alors âgé de 52 ans, grand, sec, sanguin et d'une santé robuste, eût paru capable de vigueur sans de gros yeux d'un bleu faïence dont le regard annonçait une extrême simplicité. Il existait dans sa figure terminée par un menton de galoche, entre son nez et sa bouche, un espace démesuré par rapport aux lois du dessin qui lui donnait un air de soumission en parfaite harmonie avec son caractère, auquel concordaient les moindres détails de sa physionomie. Ainsi sa chevelure grise, feutrée par son chapeau qu'il gardait presque toute la journée, formait comme une calotte sur sa tête en dessinant le contour piriforme. Son front, très ridé par sa vie campagnarde et par de continuelles inquiétudes, était plat et sans expression. Son nez aquilin relevait un peu sa figure. Le seul indice de force se trouvait dans ses sourcils touffus qui conservaient leur couleur noire et dans la vive coloration de son teint. Mais cet indice ne mentait point. Le gentilhomme, quoique simple et doux, avait la foi monarchique et catholique. Aucune considération ne lui fait changer de parti. Ce bonhomme se serait laissé arrêter, il n'eût pas tiré sur les municipaux et serait allé tout doucettement à l'échafaud. Ses 3000 livres de rente viagère, sa seule ressource, l'avaient empêché d'émigrer. Il obéissait donc au gouvernement de fait, sans cesser d'aimer la famille royale et d'en souhaiter le rétablissement. Mais il eût refusé de se compromettre en participant à une tentative en faveur des Bourbons. Il appartenait à cette portion de royalistes qui se sont éternellement souvenus d'avoir été battus et volés, qui, dès lors, sont restés muets, économes, rancuniers, sans énergie, mais incapables d'aucune abjuration ni d'aucun sacrifice. Tout prêts à saluer la royauté triomphante, amis de la religion et des prêtres, mais résolus à supporter toutes les avanies du malheur. Ce n'est plus alors avoir une opinion, mais de l'entêtement. L'action est l'essence des partis. Sans esprit, mais loyal, avare comme un paysan, et néanmoins noble de manière, hardi dans ses vœux, mais discret en parole et en action, tirant parti de tout et prêt à se laisser nommer maire de Cinq-Cygnes, M. d'Hautesserre représentait admirablement ces honorables gentilshommes auxquels Dieu a écrit sur le front le mot « mythe » qui laissèrent passer au-dessus de leur gentilhommière et de leur tête les orages de la Révolution, qui se redressèrent sous la Restauration, riches de leurs économies cachées, fiers de leur attachement discret, et qui rentrèrent dans leur campagne après 1830. Son costume, expressive enveloppe de ce caractère, peignait l'homme et le temps. M. d'Hautesserre portait une de ces houppelandes, couleur noisette, à petit collet, que le dernier duc d'Orléans avait mise à la mode à son retour d'Angleterre, et qui furent, pendant la Révolution, comme une transaction entre les hideux costumes populaires et les élégantes redingotes de l'aristocratie. Son gilet de velours, à raies fleuretées, dont la façon rappelait ceux de Robespierre et de Saint-Just, laissait voir le haut d'un jabot à petits plis dormant sur la chemise. Il conservait la culotte, mais la sienne était de gros drap bleu à boucles d'acier bruni. Ses bas en filoselle noire moulaient des jambes de cerf, chaussées de gros souliers maintenus par des guêtres en drap noir. Il avait gardé le col en mousseline à 1000 plis, serré par une boucle en or sur le cou. Le bonhomme n'avait point entendu faire de l'éclectisme politique en adoptant ce costume à la fois paysan, révolutionnaire et aristocrate. Il avait obéi très innocemment aux circonstances. Madame d'Hautesserre, âgée de 40 ans et usée par les émotions, avait une figure passée qui semblait toujours posée pour un portrait. Et son bonnet de dentelle, orné de coques en satin blanc, contribuait singulièrement à lui donner cet air solennel. Elle mettait encore de la poudre malgré le fichu blanc, la robe en soie puce à manches plates, à jupons très amples, triste et dernier costume de la reine Marie-Antoinette. Elle avait le nez pincé, le menton pointu, le visage presque triangulaire, des yeux qui avaient pleuré. Mais elle mettait un soupçon de rouge qui ravivait ses yeux gris. Elle prenait du tabac et à chaque fois elle pratiquait ces jolies précautions dont abusaient autrefois les petites maîtresses. Tous les détails de sa prise constituaient une cérémonie qui s'explique par ce mot « elle avait de jolies mains ». Depuis 2 ans, l'ancien précepteur des deux Cimeuses, ami de l'abbé d'Hautesserre, nommé Gouget, abbé des Minimes, avait pris pour retraite la cure de Cinq-Cygnes par amitié pour les d'Hautesserre et pour la jeune comtesse. Sa sœur, Mademoiselle Gouget, riche de 700 francs de rente, les réunissait aux faibles appointements de la cure et tenait le ménage de son frère. Ni l'église ni le presbytère n'avaient été vendus par suite de leur peu de valeur. L'abbé Gouget logeait donc à 2 pas du château, car le mur du jardin de la cure et celui du parc étaient mitoyens en quelques endroits. Aussi, 2 fois par semaine, l'abbé Gouget et sa sœur dînaient-ils à Cinq-Cygnes, où tous les soirs ils venaient faire la partie des d'Hautesserre. Laurence ne savait pas tenir une carte. L'abbé Gouget, vieillard en cheveux blancs et à la figure blanche comme celle d'une vieille femme, doué d'un sourire aimable, d'une voix douce et insinuante, relevait la fadeur de sa face à ses poupines par un front où respirait l'intelligence et par des yeux très fins. De moyenne taille et bien fait, il gardait l'habit noir à la française, portait des boucles d'argent à sa culotte et à ses souliers, des bas de soie noire, un gilet noir sur lequel tombait son rabat, ce qui lui donnait un grand air sans rien ôter à sa dignité. Cet abbé, qui devint évêque de Troyes à la Restauration, habitué par son ancienne vie à juger les jeunes gens, avait deviné le grand caractère de Laurence. Il l'appréciait à toute sa valeur et il avait de prime abord témoigné une respectueuse déférence à cette jeune fille qui contribua beaucoup à la rendre indépendante à Cinq-Cygnes et à faire plier sous elle l'austère vieille dame et le bon gentilhomme auquel, selon l'usage, elle aurait dû certainement obéir. Depuis 6 mois, l'abbé Gouget observait Laurence avec le génie particulier aux prêtres, qui sont les gens les plus perspicaces, et, sans savoir que cette jeune fille de 23 ans pensait à renverser Bonaparte au moment où ses faibles mains détortillaient un brandebourg des faits de son Amazone, il la supposait cependant agitée d'un grand dessein. Mademoiselle Gouget était une de ces filles dont le portrait est fait en deux mots qui permettent aux moins imaginatifs de se les représenter. Elle appartenait au genre des grandes aquenées. Elle se savait laide, elle riait la première de sa laideur en montrant ses longues dents jaunes comme son teint et ses mains ossues. Elle était entièrement bonne et gaie. Elle portait le fameux casaquin du vieux temps, une jupe très ample à poches toujours pleines de clés, un bonnet à rubans et un tour de cheveux. Elle avait eu 40 ans de très bonne heure, mais elle se rattrapait, disait-elle, en s'y tenant depuis 20 ans. Elle vénérait la noblesse et savait garder sa propre dignité en rendant aux personnes nobles tout ce qui leur était dû de respect et d'hommage. Cette compagnie était venue fort à propos à 5 signes pour Madame d'Auxerre, qui n'avait pas, comme son mari, des occupations rurales, ni comme Laurence, le tonique d'une haine pour soutenir le poids d'une vie solitaire. Aussi tout s'était-il en quelque sorte amélioré depuis 6 ans. Le culte catholique rétabli permettait de remplir les devoirs religieux qui ont plus de retentissement dans la vie de campagne que partout ailleurs. Monsieur et Madame d'Auxerre, rassurés par les actes conservateurs du premier consul, avaient pu correspondre avec leur fils, avoir de leurs nouvelles, ne plus trembler pour eux, les prier de solliciter leur radiation et de rentrer en France. Le trésor avait liquidé les arrérages des rentes et payait régulièrement les semestres. Les d'Auxerre possédaient alors de plus que leurs viagers 8 000 francs de rente. Le vieillard s'applaudissait de la sagesse de ses prévisions. Il avait placé toutes ses économies, 20 000 francs, en même temps que sa pupille avant le 18 Brumaire, qui fit, comme on le sait, monter les fonds de 12 à 18 francs. Longtemps, 5 signes étaient restés nus, vides et dévastés. Par calcul, le prudent tuteur n'avait pas voulu, durant les commotions révolutionnaires, en changer l'aspect. Mais, à la paix d'Amiens, il avait fait un voyage à Troyes pour en rapporter quelques débris des 2 hôtels pillés, rachetés chez des fripiers. Le salon avait alors été meublé par ses soins. De beaux rideaux de lampasse blanc à fleurs vertes provenant de l'hôtel Simeuse ornaient les 6 croisées du salon où se trouvaient alors ses personnages. Cette immense pièce était entièrement revêtue de boiseries divisées en panneaux encadrés de baguettes perlées, décorées de mascarons aux angles et peints en 2 tons de gris. Les dessus des 4 portes offraient de ces sujets en grisaille qui furent à la mode sous Louis XV. Le bonhomme avait trouvé à Troyes des consoles dorées, un meuble en lampasse vert, un lustre de cristal, une table à jouer en marqueterie et tout ce qui pouvait servir à la restauration de 5 signes. En 1792, tout le mobilier du château avait été pris car le pillage des hôtels eut son contre-coup dans la vallée. Chaque fois que le vieillard allait à Troyes, il en revenait avec quelques reliques de l'ancienne splendeur, tantôt un beau tapis comme celui qui était tendu sur le parquet du salon, tantôt une partie de vaisselle ou de vieille porcelaine de Saxe et de Sèvres. Depuis 6 mois, il avait osé déterrer l'argenterie de 5 signes que le cuisinier avait enterrée dans une petite maison lui appartenant et située au bout d'un des longs faubourgs de Troyes. Ce fidèle serviteur, nommé Durieux, et sa femme avaient toujours suivi la fortune de leur jeune maîtresse. Durieux était le factotum du château, comme sa femme en était la femme de charge. Durieux avait pour se faire aider à la cuisine la sœur de Catherine, à laquelle il enseignait son art, et qui devenait une excellente cuisinière. Un vieux jardinier, sa femme, son fils payé à la journée, et leur fille, qui servait de vachère, complétaient le personnel du château. Depuis 6 mois, la Durieux avait fait faire en secret une livrée aux couleurs des 5 signes pour le fils du jardinier et pour Gothard. Quoique bien grondée pour cette imprudence par le gentilhomme, elle s'était donné le plaisir de voir le dîner servi, le jour de Saint-Laurent, pour la fête de Laurence, presque comme autrefois. Cette pénible et lente restauration des choses faisait la joie de monsieur et madame d'Auxerre et des Durieux. Laurence souriait de ce qu'elle appelait des enfantillages. Mais le bonhomme d'Auxerre pensait également aux solides. Il réparait les bâtiments, rebâtissait les murs, plantait partout où il y avait chance de faire venir un arbre et ne laissait pas un pouce de terrain sans le mettre en valeur. Aussi la vallée de Cinq-Cygnes le regardait-elle comme un oracle en fait d'agriculture. Il avait su reprendre 100 arpents de terrain contestés, non vendus et confondus par la commune dans ses communaux. Il les avait convertis en prairies artificielles qui nourrissaient les bestiaux du château et les avait encadrés de peupliers qui, depuis 6 ans, poussaient à ravir. Il avait l'intention de racheter quelques terres et d'utiliser tous les bâtiments du château en y faisant une seconde ferme qu'il se promettait de conduire lui-même. La vie était donc, depuis 2 ans, devenue presque heureuse au château. Monsieur d'Auxerre décampait au lever du soleil, il allait surveiller ses ouvriers, car il employait du monde en tout temps, il revenait déjeuner, montait après sur un bidet de fermier et faisait sa tournée comme un garde. Puis, de retour pour le dîner, il finissait sa journée par le Boston. Tous les habitants du château avaient leurs occupations, la vie y était aussi réglée que dans un monastère. Laurence seule y jetait le trouble par ses voyages subis, par ses absences, par ce que Madame d'Auxerre nommait ses fugues. Cependant, il existait à Cinq-Cygnes 2 politiques et des causes de dissension. D'abord, Durieux et sa femme étaient jaloux de Gothard et de Catherine, qui vivaient plus avant qu'eux dans l'intimité de leur jeune maîtresse, l'idole de la maison. Puis les 2 d'Auxerre, appuyés par Mademoiselle Gouget et par le curé, voulaient que leur fils, ainsi que les jumeaux de Simeuse, rentrassent et prissent part au bonheur de cette vie paisible au lieu de vivre péniblement à l'étranger. Laurence flétrissait cette odieuse transaction et représentait le royalisme pur, militant et implacable. Les 4 vieilles gens, qui ne voulaient plus voir compromettre une existence heureuse, ni ce coin de terre conquis sur les eaux furieuses du torrent révolutionnaire, essayaient de convertir Laurence à leur doctrine vraiment sage, en prévoyant qu'elle était pour beaucoup dans la résistance que leur fils et les 2 Simeuses opposaient à leur rentrée en France. Le superbe dédain de leur pupille épouvantait ces pauvres gens qui ne se trompaient point en appréhendant ce qu'ils appelaient un coup de tête. Cette dissension avait éclaté lors de l'explosion de la machine infernale de la rue Saint-Nicaise, la première tentative royaliste dirigée contre le vainqueur de Marengo, après son refus de traiter avec la maison de Bourbon. Les d'Auxerre regardèrent comme un bonheur que Bonaparte eût échappé à ce danger, en croyant que les républicains étaient les auteurs de cet attentat. Laurence pleura de rage de voir le premier consul sauvé. Son désespoir l'emporta sur sa dissimulation habituelle, elle accusa Dieu de trahir les fils de Saint-Louis. « Moi, s'écria-t-elle, j'aurais réussi !» « N'a-t-on pas, dit-elle à l'abbé Gouget en remarquant la profonde stupéfaction produite par son mot sur toutes les figures, le droit d'attaquer l'usurpation par tous les moyens possibles ?»« Mon enfant, répondit l'abbé Gouget, l'Église a été bien attaquée et blâmée par les philosophes pour avoir jadis soutenu qu'on pouvait employer contre les usurpateurs les armes que les usurpateurs avaient employées pour réussir. Mais aujourd'hui, l'Église doit trop à Monsieur le Premier Consul pour ne pas le protéger et le garantir contre cette maxime due d'ailleurs aux jésuites. « Ainsi l'Église nous abandonne, » avait-elle répondu d'un air sombre. Dès ce jour, toutes les fois que ces 4 vieillards parlaient de se soumettre à la Providence, la jeune comtesse quittait le salon. Depuis quelque temps, le curé, plus adroit que le tuteur, au lieu de discuter les principes, faisait ressortir les avantages matériels du gouvernement consulaire, moins pour convertir la comtesse que pour surprendre dans ses yeux des expressions qui pussent l'éclairer sur ses projets. Les absences de Gothard, les courses multipliées de Laurence et sa préoccupation qui, dans ces derniers jours, parut à la surface de sa figure, enfin une foule de petites choses qui ne pouvaient échapper dans le silence et la tranquillité de la vie à Cinq-Cygnes, surtout aux yeux inquiets des d'Auxerre, de l'abbé Gouget et des Durieux, tout avait réveillé les craintes de ces royalistes soumis. Mais, comme aucun événement ne se produisait et que le calme le plus parfait régnait dans la sphère politique depuis quelques jours, la vie de ce petit château était redevenue paisible. Chacun avait attribué les courses de la comtesse à sa passion pour la chasse. On peut imaginer le profond silence qui régnait dans le parc, dans les cours, au dehors, à 9 heures, au château de Cinq-Cygnes, où dans ce moment les choses et les personnes étaient si harmonieusement colorées, où régnait la paix la plus profonde, où l'abondance revenait, où le bon et sage gentilhomme espérait convertir sa pupille à son système d'obéissance par la continuité des heureux résultats. Ces royalistes continuaient à jouer le jeu de Boston qui répandit par toute la France les idées d'indépendance sous une forme frivole, qui fut inventée en l'honneur des insurgés d'Amérique et dont tous les termes rappellent la lutte encouragée par Louis XVI. Tout en faisant des indépendances ou des misères, ils observaient Laurence qui, bientôt vaincue par le sommeil, s'endormit avec un sourire d'ironie sur les lèvres. Sa dernière pensée avait embrassé le tableau paisible de cette table où deux mots, qui eussent appris aux d'Auxerre que leur fils avait couché la nuit dernière sous leur toit, pouvaient jeter la plus vive terreur. Quelle jeune fille de 23 ans n'eût été, comme Laurence, orgueilleuse de se faire le destin, et n'aurait eu, comme elle, un léger mouvement de compassion pour ceux qu'elle voyait si fort au-dessous d'elle. « Elle dort, » dit l'abbé. « Jamais je ne l'ai vue si fatiguée. » »« Durieux m'a dit que sa jument est comme fourbue, » reprit Madame d'Auxerre. « Son fusil n'a pas servi, le bassinet était clair, elle n'a donc pas chassé. »« Ah, sac à papier !» reprit le curé. « Voilà qui ne vaut rien. »« Bah !» s'écria Mademoiselle Gouget. « Quand j'ai eu mes 23 ans et que je me voyais condamnée à rester fille, je courais, je me fatiguais bien autrement. Je comprends que la comtesse se promène à travers le pays sans penser à tuer le gibier. » Voilà bientôt 12 ans qu'elle n'a vu ses cousins. Elle les aime. Eh bien, à sa place, moi, si j'étais comme elle, jeune et jolie, j'irais d'une seule traite en Allemagne. Aussi, la pauvre mignonne, peut-être est-elle attirée vers la frontière. « Vous êtes leste, mademoiselle Gouget, » dit le curé en souriant. « Mais, reprit-elle, je vous vois inquiet des allées et venues d'une jeune fille de 23 ans, je vous les explique. » Ses cousins rentreront, elle se trouvera riche, elle finira par se calmer, dit le bonhomme d'Auxerre. Dieu le veuille, s'écria la vieille dame en prenant sa tabatière d'or qui, depuis le consulat à vie, avait revu le jour. Il y a du nouveau dans le pays, dit le bonhomme d'Auxerre au curé. Malin est depuis hier soir à Gondreville. Malin ? S'écria Laurence, réveillée par ce nom malgré son profond sommeil. Oui, reprit le curé. « Mais il repart cette nuit, et l'on se perd en conjectures au sujet de ce voyage précipité. »« Cet homme, dit Laurence, est le mauvais génie de nos deux maisons. » La jeune comtesse venait de rêver à ses cousins et aux d'Auxerre, elle les avait vus menacés. Ses beaux yeux devinrent fixes et ternes en pensant aux dangers qu'ils courraient dans Paris. Elle se leva brusquement et remonta chez elle sans rien dire. Elle habitait dans la chambre d'honneur, auprès de laquelle se trouvait un cabinet et un oratoire, situés dans la tourelle qui regardait la forêt. Quand elle eut quitté le salon, les chiens aboyèrent, on entendit sonner à la petite grille, et Durieux vint, la figure effarée, dire au salon « Voici le maire, il y a quelque chose de nouveau !» Ce maire, ancien piqueur de la maison de Simeuse, venait quelquefois au château où, par politique, les d'Auxerre lui témoignaient une déférence à laquelle il attachait le plus haut prix. Cet homme, nommé Goulard, avait épousé une riche marchande de Troyes dont le bien se trouvait sur la commune de Cinq-Cygnes et qu'il avait augmenté de toutes les terres d'une riche abbaye à l'acquisition de laquelle il mit toutes ses économies. La vaste abbaye du Val des Preux, située à un quart de lieue du château, lui faisait une habitation presque aussi splendide que Gondreville et où il figurait, sa femme et lui, comme deux rats dans une cathédrale. « Goulard, tu as été goulu !» lui dit en riant mademoiselle la première fois qu'elle le vit à Cinq-Cygnes. Quoique très attaché à la Révolution et froidement accueilli par la comtesse, le maire se sentait toujours tenu par les liens du respect envers les Cinq-Cygnes et les Simeuses. Aussi fermait-il les yeux sur tout ce qui se passait au château. Il appelait fermer les yeux, ne pas voir les portraits de Louis XVI, de Marie-Antoinette, des enfants de France, de Monsieur, du comte d'Artois, de Casalès, de Charlotte Corday qui ornaient les panneaux du salon. Ne pas trouver mauvais qu'on souhaitât, en sa présence, la ruine de la République, qu'on se moqua des 5 directeurs et de toutes les combinaisons d'alors. La position de cet homme, qui, semblable à beaucoup de parvenus, une fois sa fortune faite, recroyait aux vieilles familles et voulait s'y rattacher, venait d'être mise à profit par les 2 personnages dont la profession avait été si promptement devinée par Michu et qui, avant d'aller à Gondreville, avaient exploré le pays.